Lettres étrangères. Sylvain Bourmeau. Aujourd'hui, Luis Sepúlveda.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle des parieurs de l'hippodrome de Bron pour une rencontre avec un grand écrivain de langue espagnole, un écrivain né au Chili, Luis Sepúlveda, né en 1949 au Chili, un pays qui compte beaucoup pour lui dans sa littérature, même après qu'il l'ait quitté contraint forcé assez jeune, mais il a eu l'occasion d'y revenir. Luis Sepúlveda a quitté le Chili à la fin des années 70, il a voyagé en Amérique du Sud et puis il s'est installé finalement en Europe, en Allemagne, et maintenant il réside désormais en Espagne. Il a commencé à écrire jeune, mais il a commencé à publier un petit peu plus tard, à la fin des années 80. Son premier roman lui a valu un grand succès, Le Vieux qui lisait des histoires d'amour. Début des années 90, ses livres sont traduits chez Anne-Marie Métellier et... J'aimerais qu'ensemble, aujourd'hui, on ait l'occasion de revenir sur ce parcours marqué par cette expérience biographique bousculée, marqué par des engagements aussi, non seulement pour les droits de l'homme, mais également pour la cause environnementale qui est très importante pour Luis Sepúlveda. Donc on va parler de littérature, on va parler de géographie, on va parler de politique, j'imagine, aujourd'hui. J'aimerais, Luis Sepúlveda, pour commencer, vous demander si... Il vous est arrivé un jour, et je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas à quel âge, d'avoir la sensation, un livre entre les mains, d'entrer dans un monde parallèle qui serait le monde de la littérature. Ou bien, est-ce que cette entrée s'est faite de façon plus progressive au fil des lectures ? Comment cela vous est arrivé à vous ? Parce que ça nous arrive tous forcément à un moment ou à un autre.
Yo me encontré con la literatura o la literatura se encontró conmigo en una especie de acto de amor.
J'ai fait la rencontre de la littérature ou la littérature a fait rencontre avec moi dans une sorte d'acte d'amour.
Esto no significa que de pronto las musas se encontraron conmigo. No, no, no.
Non, ça ne signifie pas que les muses tout à coup sont venues autour de moi. Non, non, pas du tout.
Cuando yo era un adolescente de 13, 14 años tenía una sola gran intención en mi vida y era ser un buen jugador de fútbol.
Lorsque j'avais 13 ou 14 ans, je n'avais qu'une ambition dans ma vie et c'était devenir un bon joueur de foot.
Y jugaba en el equipo de mi barrio, que tenía un nombre además muy simbólico, se llamaba Unidos Venceremos Fútbol Club.
Je jouais dans le club de foot de mon quartier qui avait par ailleurs un nom assez symbolique qui était Unis nous vaincrons football club.
Voilà. Et un día domingo como hoy más o menos a esta misma hora en que iba al campo de fútbol a jugar, no, yo con mis botas de fútbol al hombro.
Et un dimanche comme celui-ci, alors que je me rendais sur le terrain de foot pour faire une partie avec mes chaussures de football accrochées à l'épaule,
vi de pronto un camión, una nueva familia llegaba a vivir en mi barrio y junto al camión estaba la chica más hermosa que yo había visto en mis 13 años de vida.
Et tout à coup j'ai vu un camión et une nouvelle famille venait s'installer dans le quartier et à côté du camión il y avait la plus jolie fille que j'ai jamais vue de ma vie.
Yo me acerqué inmediatamente y le dije, ¿puedo ayudar a bajar cosas del camión?
Je me suis approché, je lui ai dit, est-ce que je peux t'aider à sortir les choses du camion ?
Et elle a dit oui, et sa mère también dit oui, et j'ai commencé à bajar sillas, mesas, camas. Je bajé tout du camion et le mettais à la casa.
Elle m'a répondu que oui, et sa mère a confirmé, et je me suis mis à sortir toutes les choses qu'il y avait dans le camion, les chaises, etc. J'ai vidé le camion.
Evidentemente mi capacidad de seducción a esa edad era muy limitada. Yo solo podía demostrarle que era muy fuerte y que podía cargar cosas.
Évidemment, à cet âge-là, ma capacité de séduction était assez limitée et la seule chose que je pouvais démontrer c'est que j'étais costaud.
Pero cuando terminé de bajar cosas y meter a la casa, la madre de esta chica le dijo textualmente, Gloria. Ahí me enteré que se llamaba Gloria.
Quand j'ai eu terminé de vider le camion et de mettre les choses dans la maison, à ce moment-là, la mère de la fille s'est adressée à elle et lui a dit Gloria. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'elle s'appelait Gloria.
Gloria, ¿por qué no invitas a tu nuevo amigo a la fiesta de tu cumpleaños el próximo domingo? Y la tal Gloria me invitó, no con un gran entusiasmo, pero me invitó.
La mère lui a donc dit, Gloria, pourquoi tu n'inviterais pas ton nouvel ami à la fête que tu donnes pour ton anniversaire dimanche prochain? Et Gloria s'est exécutée, mais pas avec un grand enthousiasme.
Y pasé una semana horrible pensando qué le regalo, qué.
Et j'ai passé une semaine épouvantable à me demander mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir.
Un libro, ¿cuál? No. Un libro. Disco. No sé qué música le gusta.
Un disque, je ne sais pas vers où chercher.
Un chocolate, y si es alérgica. No.
Du chocolat, mais si elle est allergique.
Y decidí regalarle el mayor de los tesoros que yo tenía.
Et j'ai décidé finalement de lui offrir le plus grand des trésors que je possédais.
Y el domingo siguiente llegué a la casa de Gloria con mi tesoro muy bien envuelto en un papel muy bonito y le dije feliz cumpleaños, toma, esto es para ti.
Et je suis arrivé donc le dimanche suivant avec mon trésor personnel soigneusement plié, emballé dans un paquet cadeau et je le lui ai remis et je lui ai dit voilà ton cadeau Gloria.
Ya había otros muchachos del barrio que la rodeaban y ella se dejaba rodear con mucho agrado.
Il y avait d'autres garçons du quartier qui l'entouraient et bien sûr elle se laissait entourer.
Y tomó mi regalo y me dijo gracias y lo dejó a un lado.
Elle a pris mon cadeau, elle m'a dit merci, elle l'a posé de côté.
Y yo le dije no, ábrelo ahora.
Et je lui ai dit non, ouvre-le tout de suite.
Ella insistió en decir no, me gusta abrir los regalos más tarde en la intimidad y yo insistí no, ahora.
Elle a insisté en me disant qu'elle préférait ouvrir les cadeaux plus tard dans l'intimité de sa maison et j'ai insisté aussi et je lui ai dit non, tu l'ouvres tout de suite.
Y ella abrió mi regalo y lo tomó en su mano más o menos con el gesto con que se toma un ratón muerto.
Et elle a ouvert mon paquet cadeau et elle a pris le cadeau qu'il y avait à l'intérieur entre ses deux doigts, plus ou moins de la façon dont on tient un rat crevé.
Et dijo gracias y lo dejó.
Elle a dit merci et elle l'a posé de côté.
Entonces yo decidí ahí jugarme la vida y le pregunté ¿sabes qué es eso que te he dado?
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de jouer le tout pour le tout. Et je lui ai demandé, est-ce que tu sais bien ce que c'est que ce cadeau?
Y ella dijo, sí, dijo, es una foto.
Elle a dit, oui, c'est une photo.
Et je lui ai dit, non, es la photo.
Je lui ai dit, non, c'est la photo.
Porque era una fotografía de la selección chilena de fútbol, autografiada por todos los jugadores de la selección.
Parce que c'était une photo de l'équipe nationale de football chilien signée au dos par tous les joueurs de l'équipe.
La escuadra que en el año 1962 había ocupado el tercer lugar en el campeonato mundial de fútbol. Yo pasé meses detrás de los jugadores.
Cette sélection qui en 1972 était arrivée troisième du championnat mondial de foot et moi j'avais passé des mois à courir après tous les joueurs pour obtenir leur signature.
Bueno, y cuando yo con toda mi capacidad pedagógica le dije que esa era una fotografía de la selección chilena de fútbol, ella me dio una respuesta desconcertante.
Et quand je lui ai expliqué avec toute ma capacité pédagogique que c'était la photo de la sélection chilienne de foot de 72, elle m'a dit...
Me dijo, no me gusta el fútbol.
Elle m'a dit, je n'aime pas le foot.
Yo sentí entonces que por primera vez el amor se alejaba de mi vida.
Et j'ai alors senti pour la première fois que l'amour s'éloignait de moi.
Y con el último resto de valor que tenía, le pregunté, ¿y qué es lo que te gusta?
Et avec la dernière parcelle de courage qui me restait, je lui ai demandé, mais toi, qu'est-ce que c'est qui te plaît?
Et sa réponse fut aún más desconcertante parce qu'il dit, me gusta la poésie.
Et sa réponse fut tout à fait déconcertante parce qu'elle me dit, moi, ce que j'aime, c'est la poésie.
Et à partir de ce jour, empecé à lire poésie et me gustó.
Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à lire de la poésie et ça m'a plu.
Et j'ai commencé à écrire mes pequeños primeros poemas.
J'ai commencé à écrire mes premiers petits poèmes.
Y luego, bueno, fui leyendo más y escribiendo más.
Et puis, au fur et à mesure, je me suis mis à lire davantage et à écrire davantage.
Entonces, de ese encuentro, ¿no? Con Gloria, me queda una sola conclusión.
Et donc de cette rencontre avec Gloria, je tire une seule conclusion.
Y esa conclusión tiene una gran duda y una gran certeza.
Et dans cette conclusion, il y a un grand doute et une grande certitude.
Yo no sé si con mi acercamiento a la literatura habrá ganado algo. Eso no lo sé.
Je ne sais pas si avec mon entrée en littérature, la littérature aura gagné quelque chose. Ça, je ne sais pas.
Pero sí sé que el fútbol chileno perdió a un gran centro delantero que era yo.
Mais si... Mais ce que je sais, c'est que le football chileno a perdu un grand avant-centre.
Petit rectificatif, c'est 1962, la Coupe du Monde au Chili. J'imagine un événement considérable pour ce pays à ce moment-là et pour un enfant de cet âge-là, 13 ans, 14 ans. Donc si l'on vous entend bien, Luis Sepúlveda, il y a d'abord eu le football, il y a eu ensuite la littérature, la manière dont ça s'est passé et que vous venez de nous raconter. Et puis après, il y a eu la politique. Parce que je crois que vous êtes engagé très très vite aussi dans ces années qui ont immédiatement suivi cette rencontre amoureuse avec la littérature.
Sí, el encuentro con la política también es un encuentro muy amoroso.
La rencontre avec la politique est aussi une rencontre très amoureuse.
Yo vengo de una familia que es una familia absolutamente normal, trabajadora.
Je viens d'une famille qui est une famille tout à fait normale, une famille de travailleurs.
Mi padre era un chef, un cocinero, más de gran prestigio.
Mon père était un cuisinier, un chef de grand prestige.
Mi madre era una enfermera.
Ma mère était infirmière.
Vivía en un barrio proletario.
J'ai vécu dans un quartier ouvrier, un quartier prolétaire.
Mi infancia fue una infancia muy feliz de un niño proletario.
Mon enfance est celle d'un enfant heureux, un enfant prolétaire heureux.
Y evidentemente en mi barrio el 99% de los habitantes eran o socialistas o comunistas.
Et évidemment, dans ce quartier, le 99% des habitants étaient ou socialistes ou communistes.
Había una pequeña iglesia con un cura que era demócrata cristiano, naturalmente.
Il y avait une église avec un curé qui était démocrate chrétien, évidemment.
Pero curiosamente, esa pequeña iglesia era el lugar donde nos reuníamos los comunistas y los socialistas.
Mais très curieusement, cette petite église était le lieu de réunion des socialistes et des communistes.
Y cuando tenía también 14 años, un día fui a una manifestación solamente porque en esa manifestación el único orador era Pablo Neruda.
Et lorsque j'avais 14 ans, je suis allé à une manifestation pour la seule raison que celui qui allait prononcer les discours était Pablo Neruda.
Y era una manifestación muy muy especial.
C'était une manifestation très spéciale.
Porque era para despedir a la delegación de jóvenes chilenos que viajaban a un encuentro de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas en Berlín.
Parce qu'il s'agissait de prendre congé de la Fédération Mondiale des Jeunesses Démocratiques à Berlín.
Y naturalmente el discurso de Neruda fue un discurso muy lleno de amor hacia los jóvenes, hacia la juventud.
Et bien sûr, le discours de Neruda fut un discours plein d'amour envers les jeunes.
Recuerdo que nos dijo, no permitan nunca que les roben la juventud. agoten la juventud según vuestra propia fuerza.
Je me souviens qu'il leur a dit, ne laissez personne vous voler votre jeunesse, assumez votre jeunesse selon vos propres forces.
Sí, nos aconsejó, no permitan que la sociedad los transforme en ancianos antes de tiempo.
Ne permettez pas que la société vous transforme en vieillard avant qu'il ne soit temps.
Y en ese momento, una voz por la megafonía preguntó, ¿quién quiere entrar a la juventud comunista?
Et à ce moment-là, une voix est sortie des haut-parleurs et a posé la question, qui veut faire partie des jeunesses communistes?
Yo.
Et j'ai levé la main, j'ai dit moi.
Y de inmediato, bueno, me rodeó un grupo de muchachas y muchachos de la juventud comunista.
Et à ce moment-là, j'ai été entouré par un groupe de jeunes filles et jeunes gens de jeunesses communistes.
Me dieron un pequeño carnet que decía aspirante a militante.
Ils m'ont remis une petite carte sur laquelle il était écrit aspirant militant.
Y una cita en un lugar, en una casa que era el comité central de la juventud comunista.
Et un rendez-vous dans une maison qui était le comité central des jeunesses communistes.
Y recuerdo que al día siguiente fui a esa casa y la bienvenida fue como un regalo porque un muchacho, unos años mayor que yo, me saludó con un querido compañero.
Et je me suis rendu au rendez-vous dans cette maison et ça a été un véritable cadeau parce que j'ai été reçu par un jeune homme plus âgé que moi qui m'a accueilli en me disant « Salut compagnon ».
Et luego me preguntó « ¿Dónde vives ?» Et le dije « Bueno, mi barrio se llamaba la Quinta Comuna de Santiago ».
Il m'a demandé où je vivais et mon quartier s'appelait la Quinta Comuna de Santiago, la cinquième commune.
Y él miró en un mapa de Santiago y dijo, en la Quinta Comuna no hay juventudes comunistas, ve y fórmalas, hazlas tú.
Et il a regardé une carte et il m'a dit, voilà, à Santiago, dans la Quinta Comuna, il n'y a pas de jeunesse communiste, donc tu y vas et tu la constitues.
Y yo le pregunté, pero ¿hay algún manual de instrucciones, no cómo se hace eso?
Je lui dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un manuel d'instruction pour faire ça?
Y él me entregó un libro.
Il m'a remis un livre.
Me dijo, lee esto.
Il m'a dit, lis ça.
El libro se titula en español, Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky.
Le livre s'intitule en espagnol « Así se templó el acero », ainsi s'est trempé l'acier de Ostrovsky.
Y era una historia exactamente de un joven como yo, solo que...
Et c'était la même histoire que la mienne, celle d'un jeune homme comme moi.
Solo que en la Rusia del 1919.
Sauf que ça se passait dans la Russie de 1919.
Y bueno, y fui a mi comuna y hablé con los adultos del partido para que me dejaran utilizar... un pequeño local que había.
Je suis retourné dans mon quartier, j'ai parlé avec les adultes du parti pour qu'ils me laissent utiliser un petit local qu'il y avait là.
Y lo limpié muy bien, lo pinté de blanco.
Je l'ai nettoyé, je l'ai peint en blanc.
Y pensando en cómo atraer a la gente joven, se me ocurrió hacer una exposición.
Et en me demandant comment je pouvais attirer les gens, les jeunes, j'ai eu l'idée de faire une exposition.
Recortando fotografías y textos de una revista que llegaba a Chile y que se llamaba Unión Soviética.
En découpant les photos et les articles qu'il y avait dans une revue qui arrivait au Chili qui s'appelait Union Soviétique.
Hice una exposición que se llamaba La Conquista del Cosmos.
Et j'ai monté une exposition qui s'appelait La Conquête du Cosmos.
Et yo estaba ahí todas las tardes y pasaban algunos jóvenes que miraban y yo les decía, pasa a mirar la exposición.
J'étais là-bas tous les après-midi, il y avait des jeunes gens qui passaient, je leur disais, rentre, viens voir cette exposition.
Y lentamente fueron, bueno, entraban, les parecía interesante o no, y se iban.
Et donc ils entraient, ils regardaient l'exposition, ça leur paraissait intéressant ou pas, et puis ils repartaient.
Pero un día llegó uno especialmente y que se quedó mucho tiempo en la exposición.
Mais un jour, il y a un jeune homme qui est venu, qui est entré, qui est resté très longtemps à regarder cette exposition.
Et qui me preguntó quién era yo y por qué había hecho esa exposición.
Et il m'a demandé qui j'étais, moi, et pour quelle raison j'avais fait cette exposition.
Et bueno, yo me llené de aire antes de responder, et le dije, bueno, Soy un joven comunista.
Et je me suis rempli d'air, gonflé d'air, et je lui ai répondu, eh bien, je suis un jeune communiste.
Y creo en el porvenir científico de la humanidad.
Et je crois à l'avenir scientifique de l'humanité.
Y a partir de ese día éramos dos.
Et à partir de ce jour-là, nous étions deux.
Y en muy poco tiempo éramos 50.
Mais en peu de temps, nous sommes arrivés à être une cinquantaine.
Y así empezó una vida de realmente de una gran entrega, porque los jóvenes comunistas éramos algo así como testigos de Jehová rojos.
C'était un grand dévouement parce que les jeunes communistes, nous étions quelque chose de comparable aux témoins de Jéhovah, mais en rouge.
No bebíamos alcohol.
Nous ne buvions pas d'alcool.
Tratábamos de fumar lo menos posible.
Nous essayons de fumer le moins possible.
Un joven comunista tenía que ser el primero en la escuela, en los estudios.
Un jeune communiste devait être le premier à l'école, le premier dans ses études.
Porque ser el primero permitía formar círculos de estudio, de matemáticas, de historia, de todo.
Parce qu'être le premier, ça donnait la permission, l'autorisation de former des cercles d'études en maths.
No teníamos días domingo ni vacaciones.
Nous n'avions pas de repos le dimanche, ni de vacances.
Porque los días domingo y las vacaciones nos íbamos a trabajos voluntarios.
Parce que le dimanche et les vacances, nous allions participer au travail volontaire.
Hacer calles, hacer puentes, alfabetizar.
Pour faire des rues, pour faire construire des ponts, pour faire un travail d'alphabétisation.
Entonces, muy joven, a los 14 años, nació una relación de amor con la sociedad.
Et donc, très jeune, à cet âge de 14 ans, ce qui est né, c'est un véritable amour pour la société.
Et définitivement, de un amour très grand.
Et donc, définitivement, un amour très fort.
Gran parte de mis compañeros de la juventud comunista y luego también de la juventud socialista están muertos, fueron asesinados por la dictadura.
Une grande partie de mes camarades de l'époque, des jeunesses communistes et aussi des jeunesses socialistes, sont morts maintenant. Ils ont été assassinés par la dictature.
Pero sin embargo, del alto precio pagado.
Mais malgré ce prix très élevé que nous avons payé.
Permanece muy vivo ese acto de amor que significó luchar por una sociedad mejor.
Ce qui reste, c'est cet acte d'amour que signifie le fait de lutter pour une société plus juste.
Y eso se conserva hoy que tengo 66 años con la misma frescura que cuando yo tenía 14 años.
Et ce sentiment, aujourd'hui que j'ai 66 ans, se conserve avec la même fraîcheur que lorsque j'avais 14 ans.
Alors après... Après avoir entendu ces deux histoires orales, ces deux histoires d'amour pour la littérature et pour la politique, je vous propose d'écouter trois histoires que vous avez écrites et qui ont paru dans un livre qui s'appelle « Les roses d'Atacama ». C'est un choix de trois des portraits que vous faites dans ce livre. Ces portraits sont lus par Anne de Boissy.
Mister Simpa. Un matin de 1982, l'équipage du Moby Dick fut réveillé par les cris de quelqu'un qui demandait l'autorisation de monter à bord. Nous faisions relâche à Singapour pour une escale d'avitaillement avant de poursuivre un long voyage commencé deux mois plus tôt à Rotterdam. Nous devions continuer jusqu'à Kota Kinabalu, au nord de Bornéo, où nous effectuerions les derniers achats de vivres avant de faire route à toute vapeur vers le nord. Notre but était le port de Yokohama. Là, nous attendaient plusieurs dizaines d'activistes de Greenpeace pour bloquer et empêcher l'appareil de la flotte baleinière japonaise. Le capitaine, un néo-zélandais du nom de Terrier, rebaptisé Fox, se pencha au bastingage et ordonna « Montez et arrêtez de crier !» Ce fut la première fois que je vis cet homme souriant, vêtu d'un pantalon bouffant et d'un turban, qui se présenta comme un personnage échappé d'un roman de Salgari. « Bonjour, je m'appelle Simpa et je sais tout faire. » Il nous manquait un électricien à bord, et lorsque le capitaine l'informa que tous les membres d'équipage étaient des volontaires, de sorte qu'il ne serait pas cher payé pour jeter un coup d'œil aux installations, il répondit que l'argent n'avait pas d'importance. Il se contenterait que nous le débarquions au prochain port. « Ainsi, je me rapprocherai un peu plus du paradis, » dit-il. « Et comment est le paradis ?» demanda quelqu'un. « Très triste, mais j'y suis heureux, » répondit-il. Pendant les 3 jours de navigation jusqu'à Kota Kinabalu, Mr. Simpa démontra qu'il était non seulement un bon électricien, mais aussi un excellent cuisinier et un compagnon agréable. Il nous raconta qu'il vivait à Timor, dans un endroit appelé Silang Kupang. Sur ses 42 ans, il en a passé 30 à naviguer jusqu'à ce que, muni d'assez d'argent pour acheter une parcelle de paradis, il décida de s'y établir. Nous prîmes congé de Mr. Simpa à Kota Kinabalu. Nous le regrettâmes quelques heures, mais la vie en mer, particulièrement sur un bateau comme le Moby Dick, se chargea de nous faire oublier son départ par une foule de problèmes. Je n'eus plus de nouvelles de lui, je ne repensais pas à Mr. Simpa. Je ne pris jamais la peine de regarder sur une carte où diable se trouvait Timor. 8 ans plus tard, la vie, toujours à la merci de vents imprévisibles, me conduisit à l'île de Timor comme scénariste d'un reportage télévisé sur le grand cimetière de bateaux et les démolisseurs les plus mal payés de la planète. Un véhicule tout-terrain me transporta à Silang Kupang, qui n'est pas un village, ni un bled, ni une bourgade, mais une fourmilière humaine composée de milliers d'individus qui rognent, arrachent, éliminent tout signe de dignité des navires condamnés à mort par dépeçage. L'équipe de télévision voulait commencer rapidement le travail, mais ne savait par où l'aborder. J'étais en train de parler avec un groupe d'usuriers chargés de fixer le prix des restes de métal, de bois, de fil de fer et d'instruments, quand une main me secoua amicalement l'épaule. C'était Mr. Simpa, avec le même sourire que je lui connaissais, le même pantalon bouffant, le même turban. Il ne me laissa pas le temps de le saluer. Il m'entraîna vers une plage souillée de rouille et de résidus visqueux. Mon paradis. Comment vous trouvez ?
C'est ça, votre paradis ? Parvins-je à dire.
En ce moment, c'est un peu triste. Mais jusqu'à hier, il y avait plus de 200 personnes en train de dépecer un bateau. C'était un céréalier. Une partie de la quille est encore sous l'eau. Mr. Simpa remarqua ma perplexité et me parla alors de son travail. Avec ses économies, il avait acheté un bout de plage pas plus grand qu'un court de tennis. Là étaient dépecés les bateaux qu'il menait lui-même à la mort. Le travail était simple. Un équipage, réduit au minimum, conduisait les bateaux vétustes jusqu'à 2 milles de la côte, où il les abandonnait, et Mr. Simpa prenait la barre. Il attendait la pleine mer et quand elle arrivait, il poussait les machines au maximum vers la plage où le bateau s'échouait. Ensuite, les fourmis humaines armées de chalumeaux, de marteaux, de barres ou de leurs seules mains faisaient le reste. C'est triste, mais avec moi, les bateaux ne souffrent pas quand ils vont à la casse, parce qu'en attendant la pleine mer, je leur parle. Je leur rappelle tous les ports qu'ils ont touchés, toutes les langues qu'ils ont entendues, tous les marins, tous les drapeaux. Les bateaux sont des animaux nobles et ils arrivent résignés au paradis du travail. Qu'est devenu Mr. Simpa et son paradis de métal vaincu? Les roses d'Atacama. Freddy Taberna avait un carnet dans lequel il notait consciencieusement les merveilles du monde. Et celles-ci étaient plus de 7, elles étaient infinies et se multipliaient. Le hasard voulut que nous naissions le même jour du même mois de la même année, mais séparés par 2000 kilomètres de terre aride, car Freddy était né dans le désert d'Atacama, non loin de la frontière qui sépare le Chili du Pérou, et ce hasard fut une des très nombreuses raisons qui cimentèrent notre amitié. Un jour, à Santiago, je le vis compter tous les arbres du parquet forestal et noter sur un carnet que l'allée centrale était bordée de 320 platanes plus haut que la cathédrale d'Iquique et qu'à côté du parc coulait paisiblement le Rio Mapocho et que c'était un bonheur de le voir passer sous les vieux ponts de fer. Quand il me lut ces notes, je lui dis qu'il me semblait absurde de mentionner ces arbres, car Santiago comptait de nombreux parcs avec des platanes aussi hauts ou plus hauts que ceux-ci, et que
traiter si poétiquement le Rio Mapocho, un faible courant d'eau fangeuse qui charrie des ordures et des animaux crevés, me semblait disproportionné. « Tu ne connais pas le Nord, c'est pour ça que tu ne comprends pas », répondit Freddy. Et il continua à décrire les petits jardins qui conduisent au Cerro Santa Lucía. Quelques mois plus tard, Freddy me fit découvrir le Nord. Son Nord, aride, desséché, mais riche en mémoire et toujours prêt au miracle. Nous partîmes d'Iquique aux premières lueurs d'un 30 mars et, avant que le soleil s'élève au-dessus des montagnes du Levant, la vétuste Land Rover d'un ami nous emportait sur la Panaméricaine, droite et longue comme une aiguille interminable. À 10h du matin, le désert d'Atacama se montrait dans toute sa resplendissante inclémence. Et j'ai compris pourquoi la peau des gens d'Atacama semblait prématurément vieillie, creusée de sillons laissés par le soleil et les vents chargés de salpêtre. Nous visitâmes des villages fantômes, aux maisons parfaitement conservées, leurs pièces bien rangées, les tables et les chaises n'attendant que les invités, des théâtres ouvriers et des sièges syndicaux prêts pour la prochaine revendication, et des écoles avec leurs tableaux noirs pour y écrire l'histoire qui expliquerait la mort subite des exploitations du nitrate. Ici est passé Buenaventura Durruti. Il a dormi dans cette maison. Là, il a parlé de la libre association des ouvriers, indique Freddy en me montrant sa propre histoire. Au crépuscule, nous nous arrêtâmes dans un cimetière aux tombes ornées de fleurs en papier desséché et je crus que c'était les célèbres roses d'Atacama. Sur les croix étaient gravés des noms espagnols, émaras, polonais, italiens, russes, anglais, chinois, serbes, croates, basques, asturiens, juifs, unis par la solitude de la mort et le froid qui s'abat sur le désert dès que le soleil s'enfonce dans le Pacifique. Freddy prenait des notes dans son carnet ou vérifiait l'exactitude de celles qu'il avait déjà prises. Tout près du cimetière, nous nous étendîmes dans nos sacs de couchage et nous nous mîmes à fumer et à écouter le silence. Le murmure tellurique de millions de pierres qui, réchauffées par le soleil, éclatent imperceptiblement sous la violence du changement de température. À l'aube du 31 mars, mon ami me secoua pour me réveiller. Les sacs de couchage étaient trempés. Je demandai s'il avait plu, Freddy répondit que oui. Il était tombé une pluie fine et douce, comme presque tous les 31 mars à Atacama. En me redressant, je vis que le désert était rouge, d'un rouge vif, couvert de minuscules fleurs, couleur de sang. Les voilà, les roses du désert, les roses d'Atacama. Les plants sont toujours là, sous la terre salée. Les gens d'Atacama les ont vus, et les Incas, les conquistadors espagnols, les soldats de la guerre du Pacifique, les ouvriers du nitrate. Elles sont toujours là et fleurissent une fois par an. À midi, le soleil les aura calcinées, dit Freddy en prenant des notes dans son carnet. Ce fut la dernière fois que je vis mon ami Freddy Taberna. Le 16 septembre 1973, 3 jours après le coup d'état militaire fasciste, un peloton de soldats le conduisit en rase campagne aux environs d'Iquique. Il pouvait à peine bouger. Il lui avait cassé plusieurs côtes et un bras. Il ne pouvait presque plus ouvrir les yeux car son visage n'était qu'un hématome. « Pour la dernière fois, vous vous déclarez coupable ?» demanda un lieutenant du général Arellano Stark, lequel assistait à la scène. « Je me déclare coupable d'être un dirigeant étudiant, d'être un militant socialiste et d'avoir lutté pour défendre le gouvernement constitutionnel, répondit Freddy. Les militaires l'assassinèrent et enterrèrent son corps dans un endroit secret du désert. Des années plus tard, dans un café de Quito, un autre survivant de l'horreur, Ciro Balle, me raconta que Freddy reçut les balles en chantant à plein poumon la Marseillaise socialiste. 25 ans ont passé. Neruda a peut-être raison quand il dit « Nous, ceux d'alors, nous ne sommes plus les mêmes. » Mais au nom de mon camarade Freddy Taberna, je continue de noter les merveilles du monde dans un carnet. La voix du silence. En mars 1996, le vendeur d'une librairie de Santiago me donna une étrange nouvelle. Il y a quelques jours, s'est présenté un type bizarre avec une photo de toi découpée dans un journal. C'était un type étrange, très étrange. Il ne disait rien et se contentait de montrer la photo. Il est resté des heures planté là jusqu'à ce qu'évidemment, on le vire. Évidemment, je déteste les évidences décidées par d'autres. Je voulus en savoir plus, mais le vendeur ne se rappelait aucune autre particularité du mystérieux visiteur. Je sortis de mauvaise humeur de la librairie, et comme je redescendis la rue, je sentais qu'on touchait mon épaule. C'était la caissière de la librairie. Je n'en suis pas très sûre, mais il me semble avoir déjà vu celui qui te cherchait. C'est un homme jeune, très maigre, et qui a l'habitude d'attendre quelqu'un devant le marché. Les jours suivants, à des heures différentes, je parcourus le marché central de Santiago. Je vis sortir des centaines de femmes et d'hommes chargés de sacs, entrer des dizaines de vagabonds, des gamins vendeurs, des aveugles chanteurs de tango nostalgiques. Mais l'homme maigre, que je connaissais sûrement, ne donnait pas signe de vie. C'est au soir du quatrième jour que je le vis. Je ressentis un choc dans la poitrine, car devant moi se trouvait un cher et noble camarade que, comme beaucoup d'autres, je croyais perdu quelque part dans le monde. Je le serrai dans mes bras en lui disant la seule chose que je savais de lui, Oscar, car c'était sous ce nom que je l'avais connu à Quito presque 20 ans plus tôt, mais Oscar ne répondit pas à mon accolade, ni ne réagit, et comme je le secouais en lui répétant que c'était moi, je vis ses bras ballants dans une attitude d'abattement, la tête légèrement courbée et ses yeux baignés d'une humidité qui ne voulait pas céder le pas aux larmes. Nous nous regardâmes. Je ne savais pas son vrai nom. Nous nous étions connus pendant les années dures, quand même en exil, la clandestinité imposait ses lois salvatrices et exigeait que nous en sachions le moins possible les uns sur les autres. Il y avait de l'affection dans ses yeux et je lui posais de nombreuses questions pour savoir ce qui lui arrivait, où il vivait, s'il avait envie de boire quelque chose. Mais il ne répondait pas et j'en arrivais à me demander s'il me comprenait. Nous restâmes ainsi près de deux interminables heures, moi parlant et Oscar répondant de ses yeux brillants dans un langage que je ne parvenais pas à déchiffrer, jusqu'à ce qu'une femme... Une de ces femmes prématurément vieillies, dont les rides nous répètent que la dictature ne leur a pas seulement volé des parents et des amis, mais aussi des années de vie, s'approche alarmée et d'une voix triste m'informe qu'Oscar ne pouvait pas parler, qu'il pouvait à peine marcher après des années d'invalidité, mais que, apparemment, il comprenait. Elle me dit qu'elle devait se dépêcher de le conduire aux toilettes du marché. Je proposais de les accompagner, mais elle refusa en me faisant comprendre que cela ferait honte à mon ami. « Attendez ici, on revient dans 5 minutes, » dit-elle. Mais ils ne revinrent pas. À partir de ce jour, j'ai passé 3 ans à faire des recherches sur un camarade dont le nom de guerre était Oscar parmi les Chiliens, les Argentins et les Uruguayens qui avaient séjourné en Équateur. En vain. Personne ne savait rien et j'étais sur le point de jeter l'éponge quand une rencontre fortuite avec un Vénézuélien me dévoila l'histoire d'Oscar, que je vais raconter maintenant, en commençant par la phrase magique avec laquelle commencent les belles histoires. Il était une fois un jeune homme des quartiers populaires qui, au prix de gros efforts, travaillait en même temps qu'il faisait des études d'électricien. Il voulait éclairer son pays pour que personne ne bute sur les écueils de l'obscurité et il devint un dirigeant syndical actif pendant le gouvernement d'Allende. Après la défaite, il partit en exil et ses désirs d'illuminer le monde le conduisirent au Nicaragua où il combattit la dictature de Somoza. Du Nicaragua, il retourna clandestinement au Chili pour mettre fin à l'obscurité dans son pays. Un jour de 1982, il tomba aux mains des bourreaux. Et comme il ne parvenait pas à briser sa volonté par la torture, les bourreaux décidèrent de l'utiliser comme un piège. Ils le relâchèrent en rase campagne, converti en loque, invalide, la colonne vertébrale sérieusement lésée, incapable de bouger même les paupières. C'était d'une part un message de terreur clair et net, et d'autre part un appât, car la solidarité obligerait ses camarades à venir jusqu'à lui. Il était une fois un jeune homme, un électricien, qui avait fait de l'immobilité et du silence une inébranlable barricade. Dans peu de temps, Oscar partira en Europe où il sera soigné par des spécialistes qui, pourvu qu'ils y arrivent, rendront possible qu'il prononce lui-même un jour son véritable nom, raconte son histoire indispensable et que sa voix d'ouvrier triomphe pour toujours de l'obscurité et du silence.
France Culture, Lettres étrangères. Aujourd'hui, Luis Sepúlveda.
Merci Anne de Boissy. Trois textes extraits des Roses d'Atacama, traduits de l'espagnol par François Gaudry. Il était une fois un jeune homme. On l'a compris, je crois, en vous entendant déjà raconter deux histoires et puis en entendant Anne de Boissy en lire trois autres. Pour vous, la littérature, Luis Sepúlveda, ce sont d'abord des histoires et ce sont aussi des personnages, des portraits. Il me semble que ce sont les deux caractéristiques les plus évidentes de votre travail d'écrivain.
Je ne sais pas si j'ai une vision très particulière ou très originale de la littérature.
Je ne suis pas sûr d'avoir une vision très particulière ou très originale de la littérature.
Pero tengo algunas cosas claras que voy a intentar explicar.
Mais il y a un certain nombre de choses qui me sont claires et que je vais essayer d'expliquer.
Primero tengo muy claro que primero soy ciudadano y después soy escritor.
La première chose que je vois clairement, c'est que je suis d'abord un citoyen et ensuite un écrivain.
Y como ciudadano tengo muchos deberes que cumplir.
Et comme citoyen, j'ai de nombreux devoirs à accomplir.
Y solamente cuando he cumplido con mis deberes de ciudadano, tengo entonces el derecho moral de sentarme a escribir y ser un escritor.
Et ce n'est qu'une fois que j'ai accompli mes devoirs de citoyen que j'ai le droit moral de m'asseoir comme écrivain et de me mettre à la tâche.
Evidentemente esto otros grandes escritores como Camus o Malraux lo plantearon mucho mejor, lo dijeron de una manera mucho más rica, pero es lo mismo.
Évidemment, de grands écrivains comme Camus ou Malraux ont dit ça déjà de façon bien meilleure, mais bon, ça revient à la même chose.
Y aunque es verdad que siento una gran atracción por la ficción, por crear mundos de ficción.
Et s'il est vrai que je ressens une grande attirance vers la fiction, vers la création de mondes de fiction.
En todo lo que escribo siempre se impone la realidad, ¿no? Porque la realidad es contradictoria, pero al mismo tiempo es muy rica.
Dans tout ce que j'écris, c'est la réalité qui s'impose, parce que la réalité, elle est à la fois contradictoire, mais d'une grande richesse.
Muchas veces me propongo de tomar una historia real y pasarla a través de la ficción para hacerla mucho más rica.
Il m'arrive très souvent de prendre une histoire réelle et de la passer au filtre de la fiction pour l'enrichir encore.
Pero el resultado final siempre es que la ficción me permite conocer mejor esa misma realidad.
Mais le résultat final est toujours le même, c'est que la fiction me permet de mieux connaître cette réalité.
Sin desvirtuar la realidad, la ficción la aleja un poco a la distancia.
Ce que fait la fiction, ça n'est pas de dire toute la réalité, mais au contraire de l'éloigner, de la mettre un petit peu à distance.
Y permite una óptica mucho mejor, permite ver mejor la propia realidad.
Et ça permet un regard, une optique bien meilleure sur la réalité.
Es evidente que en mis deseos de escritor de cuando tenía, no sé, 25 o 30 años, estaba escribir una gran obra de ficción.
C'est vrai que lorsque j'avais autour de 25, 30 ans, j'avais envie, j'espérais écrire une grande œuvre de fiction.
Me hubiera gustado ser capaz de escribir una obra de ficción como alguna de las novelas de Jules Verne.
J'aurais aimé être capable d'écrire une grande œuvre de fiction comme le sont certains romans de Jules Verne.
Pero definitivamente me tocó vivir, ¿no?, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, en donde la realidad es un gran desafío.
Mais finalement, il m'a été donné de vivre dans ce qu'était le XXe siècle et maintenant le XXIe siècle, où au fond la réalité est un grand défi.
Muchas cosas se están perdiendo, otras cosas se han perdido en la vida.
Nombre de choses sont en train de se perdre, d'autres se sont déjà perdues dans notre existence.
Pero como esas cosas que se han perdido permanecen aún en la memoria de los seres humanos, el deseo de volver a tenerlas es muy fuerte, es muy grande, es un enorme desafío.
Mais comme toutes ces choses qui se sont perdues dans la réalité restent présentes dans la mémoire humaine, les faire revivre par la fiction est un grand défi.
Y de otra parte, bueno, yo procuro tener una vinculación con la vida que sea rigurosamente ética.
Et par ailleurs, j'essaie d'entretenir un lien avec la vie qui soit rigoureusement éthique.
Y mi relación con la literatura, intento que esa relación sea profundamente estética.
Et ma relation avec la littérature, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit profondément esthétique.
Nunca ensuciaría un par de páginas de una novela convirtiéndolas en un panfleto.
Je ne salirai jamais quelques pages d'un roman en les convertissant en un pamphlet.
Pero intento establecer un vaso comunicante.
Mais j'essaie d'établir des vases communicants.
Intento que mi literatura tenga el mismo rigor ético con que yo me enfrento a la vida.
J'essaie de faire en sorte que ma littérature ait la même rigueur éthique que celle avec laquelle je me confronte à la vie.
Y naturalmente intento que la vida, en la porción que a mí me toca, tenga la misma intensidad estética con la cual me enfrento a la literatura.
Et j'essaie par ailleurs de faire en sorte que la vie, pour ce qui relève de moi, ait la même dimension esthétique que celle avec laquelle je me confronte à la littérature.
Alors, dans ce cas, où placez-vous un autre registre d'écriture que vous avez pratiqué aussi, le journalisme, et que vous avez pratiqué dans un rapport à l'engagement pour la cause environnementale aussi? Qu'est-ce que le journalisme pour vous par rapport à, d'un côté, la littérature, de l'autre, ces pamphlets dont vous parliez à l'instant?
Lo primero que se me ocurre responder es que el periodismo para mí ahora es un gran dolor.
La première chose qui me vient à l'esprit pour te répondre, c'est que le journalisme pour moi actuellement c'est une grande douleur.
Esa libertad de expresión, que es la piedra fundamental del periodismo, es cada vez menor, está cada vez más reducida.
La liberté d'expression, qui est l'élément fondamental du journalisme, est chaque jour un peu plus réduite, un peu plus restreinte.
La concentración de la propiedad de los medios de comunicación cada vez en menos manos, ¿no?
La concentración des médias, des moyens de comunicación entre des mains de plus en plus réduites.
Ha significado de una parte una gran pérdida del espacio de libertad que debe tener el periodismo.
Ça a conduit à une perte de plus en plus grande de cet espace de liberté que doit signifier le journalisme.
Y a eso se agrega de que las mismas grandes empresas monopólicas, propietarios de periódicos, radios, televisiones, editoriales, se han encargado de desvirtuar la importancia de la profesión de periodista.
Y ces mêmes grandes entreprises qui ont le monopole du journalisme, des chaînes de radio, des chaînes de télévision, se sont chargés d'enlever tout sens à ce métier qu'est le journalisme.
Hace 20 años, un joven que salía de una facultad de periodismo salía lleno de ilusión al ejercicio de una profesión fascinante.
Il y a 20 ans de cela, un jeune homme qui sortait de formation de faculté de journalisme en sortait avec toute l'illusion que peut signifier ce métier de journalisme.
Ahora sale de la facultad de periodismo a una aventura bastante triste.
Et aujourd'hui, il sort de la même faculté de journalisme avec l'idée de vivre une aventure assez triste.
Sale a la aventura de tal vez conseguir un contrato como becario ganando una miseria.
Il va vivre l'aventure d'obtenir peut-être une bourse de travail qui va le sortir de la misère.
O tal vez poder sobrevivir como freelance haciendo una pequeña cosa aquí y una pequeña cosa al otro lado.
Ou avec la possibilité peut-être de survivre comme journaliste freelance avec un petit travail par-ci et par-là.
Yo hice durante muchos años también periodismo escrito.
J'ai fait pendant de nombreuses années du journalisme écrit.
Y siempre lo consideré un género literario.
J'ai toujours considéré que c'était un genre littéraire.
Y siempre consideré que aunque la materia del periodismo es rigurosamente la realidad y rigurosamente la verdad, hay que contarla bien.
J'ai toujours considéré que même si le journalisme c'est une affaire qui concerne rigoureusement la réalité et rigoureusement la vérité, il faut l'écrire bien.
Y había que contarla bien desde el punto de vista fundamental que es el de la decencia humana.
Il faut raconter les choses depuis ce point de vue fondamental qui est celui de la décence humaine.
Yo fui, por ejemplo, corresponsal en Angola y en Mozambique.
Par exemple, j'ai été correspondant en Angola et au Mozambique.
En tiempo de guerra.
Pendant la guerre.
Y muchas veces me escandalicé con algunos colegas de la prensa anglosajona.
Et j'ai eu souvent l'occasion d'être scandalisé par le comportement de certains collègues de la presse anglo-saxonne.
Que después de una batalla pedían que les juntaran cadáveres para hacer la foto.
Qui après une bataille demandait que l'on rassemble des cadavres pour pouvoir prendre des photos.
Cuando la obligación ética del periodista exigía contar el horror pero sin herir la dignidad humana.
Alors que l'obligation du journalisme c'était de raconter l'horreur mais sans blesser la dignité humaine.
Claro, yo tuve la suerte de conocer y estar cerca de grandes maestros del periodismo.
J'ai eu la chance de faire la connaissance et de travailler près de grands maîtres du journalisme.
Tengo el orgullo, ¿no?, de decir que en Mozambique coincidí con el gran Ronsard Kapuscinski, ¿no?, maestro de maestros del
periodismo. J'ai l'orgueil de pouvoir dire que lorsque j'étais au Mozambique, j'ai pu côtoyer le grand Kapuscinski, qui est un maître du journalisme.
Y bueno, para mí el periodismo sigue siendo una pasión, ¿no? Colaboro todavía con algunos medios en la medida de mis posibilidades.
Pour moi, le journalisme continue d'être une passion et je collabore à certains périodiques dans la mesure de mes possibilités.
Y colaboro más o menos habitualmente con Le Monde Diplomatique, con algunas publicaciones.
Je collabore plus ou moins occasionnellement avec Le Monde Diplomatique et quelques autres publications.
Y gracias a los modernos medios puedo mantener, por ejemplo, un blog en Le Monde Diplomatique.
Et grâce aux technologies modernes, je peux entretenir, maintenir un blog sur le site du Monde Diplomatique.
Que me proporciona la satisfacción de tener lectores.
Ça me donne la satisfaction d'avoir des lecteurs.
Y una satisfacción mucho mayor, que es la bronca, el odio que tienen algunos gobiernos hacia lo que yo escribo.
Et la satisfaction encore plus grande de pouvoir constater la haine, la rage que provoque mon blog sur certains gouvernements.
Porque una de las grandes lecciones del periodismo dice cuando el poder te odia es porque eres bueno en tu profesión.
Parce qu'une des grandes leçons du journalisme consiste à dire que lorsque le pouvoir te hait, c'est que tu es bon dans ton boulot.
Luis Sepúlveda, une autre question sur votre rapport à l'engagement, à la politique. Vous avez raconté comment, très jeune, vous avez été dans la lutte sociale, parce que c'était le mot à l'époque, dans ce quartier populaire auprès des jeunesses communistes au Chili. Mais par la suite, vos deux engagements concernent surtout les droits de l'homme et l'environnement, qui sont deux causes, au fond, qui étaient, j'imagine, assez absente du moment où vous avez commencé la politique. Comment, en tant qu'homme de gauche aujourd'hui, vous articulez ces trois dimensions? Est-ce que la dimension sociale n'a pas un petit peu reculé devant la montée en puissance des deux autres terrains de combat, les droits de l'homme, l'environnement?
No quiero parecer arrogante si digo que que para mí el haber nacido y haber tenido la infancia y la juventud en Chile fue realmente un privilegio.
Je voudrais pas paraître arrogant en disant que le fait d'être né, d'avoir grandi au Chili est un privilège.
Yo me formé en la educación pública gratuita laica.
Je me suis formé grâce à l'éducation populaire gratuite et laïque.
Y parte de las materias que estudiábamos en esa escuela a partir de la infancia.
Et une partie des matières que nous apprenions dans ces écoles dès l'enfance.
Tenía que ver con los derechos humanos, los derechos sociales. Y con la ecología antes de que la palabra ecología fuera una moda.
Avait quelque chose à voir avec les droits sociaux, avec les droits humains et avec l'écologie avant même que le mot existe.
Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era un niño de 12, 13 años, una de mis grandes satisfacciones era ir al Parlamento. Un profesor nos llevaba al Parlamento para aprender cómo funcionaba la democracia.
Je me rappelle que lorsque j'avais 12 ou 13 ans, une de mes grandes satisfactions était d'aller au Parlement, parce qu'un de nos profs nous emmenait au Parlement pour voir comment ça fonctionne, la démocratie.
Y en una de esas visitas al Parlamento chileno, tuve recuerdo ocasión de escuchar por primera vez a un hombre que me sorprendió por su capacidad oratoria y su claridad cuando hablaba. Y ese hombre era un senador llamado Salvador Allende.
Lors d'une de ses visites au Parlement, j'ai eu l'occasion d'entendre un homme qui m'a beaucoup surpris par son talent d'orateur. Et cet homme, c'était Salvador Allende.
Y evidentemente, luego, las cosas siempre se interrelacionan.
Et bien sûr, ensuite, les choses sont toujours en relation les unes avec les autres.
Yo sé que puede sonar contradictorio a veces decir los chilenos estábamos firmemente convencidos de que podíamos transformar nuestra realidad de forma democrática y pacífica.
Ça peut parfois avoir l'air contradictoire de dire que nous, les Chiliens, nous étions parfaitement convaincus que nous avions la capacité de transformer
de manière démocratique et pacifique.
Les choses de façon démocratique et pacifique.
Pero al mismo tiempo éramos conscientes de que otros países vecinos no podían lograr esas transformaciones de manera democrática y pacífica.
Parallèlement, nous étions tout à fait convaincus que d'autres pays voisins n'avaient pas cette possibilité de changer les choses de façon démocratique et pacifique.
Entonces, a veces resulta contradictorio pensar que de una parte intentábamos desarrollar una experiencia democrática y pacífica en Chile.
Et donc ça a l'air contradictoire de dire que d'une part nous étions conscients de pouvoir transformer les choses de façon démocratique et pacifique.
Pero al mismo tiempo otros chilenos, ¿no?, muy consecuentes, muy coherentes.
Et d'autre part, d'autres Chiliens tout à fait cohérents
combattaient et morían, ¿no?, en movimientos guerrilleros en Bolivia, en Centroamérica.
Lutter et mourir au cours de mouvements guerrilleros en Bolivie et dans d'autres pays.
Y no era solamente el problema del poder, no. Era,
ça n'était pas uniquement une question de pouvoir.
Era una idea de transformación de la sociedad que era global, que lo encerraba todo.
C'était une idée de transformation de la société qui était une idée globale, qui comprenait toutes choses.
En el caso nuestro, de los chilenos, nuestro esfuerzo, ¿no?, era un esfuerzo por la recuperación de una serie de dignidades que sentíamos perdidas.
Dans notre cas, le cas du Chili, notre effort était un effort, au fond, de récupération de toute une série de dignités humaines dont nous avions le sentiment qu'elles étaient perdues.
La récupération de los derechos sociales tenía que ver con los derechos humanos.
La récupération des droits sociaux avait quelque chose à voir avec les droits humains.
La idea de ser independientes y autosuficientes alimentariamente.
L'idée d'être indépendant, autonome et...
Del punto de vista alimentario.
Autonome d'un point de vue alimentaire.
tenía que ver evidentemente con recuperar algo que se llama dignidad ecológica.
Avait quelque chose à voir avec la récupération de quelque chose que l'on peut appeler la dignité écologique.
Cuando planteábamos nuestro derecho a decidir qué hacíamos con nuestras materias primas a una explotación racional, estábamos uniendo política y ecología al mismo tiempo.
Lorsque nous nous posions la question de savoir ce que nous allions faire avec nos matières premières, nous mettions en relation l'écologie et la politique.
Entonces era un esfuerzo intelectual muy grande, muy serio.
C'est un effort intellectuel très grand et très très sérieux.
Y un esfuerzo intelectual tan grande y tan serio marca. Cuando uno ha sido participante, eso lo marca para siempre.
Et un effort de ce type-là, intellectuel, si grand, si sérieux, ça vous marque, ça marque quelqu'un qui a participé à cela.
No quiero prolongarme demasiado, pero yo recuerdo, por ejemplo, uno de los días más felices de mi vida.
Je ne veux pas parler trop longtemps, mais je me souviens, par exemple, d'un des jours les plus heureux de mon existence.
Yo era un joven militante que tenía 19 años.
J'étais un jeune militant de 19 ans.
Y Salvador Allende acababa de ganar la presidencia de la República.
Et Salvador Allende venait d'être élu à la présidence de la République.
Bueno, a lo largo de mi vida, yo he recibido muchos honores, muchas distinciones que agradezco naturalmente.
Tout au long de mon existence, j'ai reçu beaucoup de prix, beaucoup de récompenses pour lesquelles je suis très reconnaissant.
Estoy particularmente agradecido de Francia, ¿no? Bueno, soy caballero de las artes y las letras de la República Francesa.
J'ai particulièrement de gratitude envers la France parce que bon, je suis chevalier des arts et des lettres dans ce pays.
Soy doctor honoris causa de la Universidad de Toulon.
Je suis docteur honoris causa de l'université de Toulon.
Y otros premios que he recibido en el mundo, pero hay un premio del que me siento particularmente orgulloso.
Il y a beaucoup d'autres prix que j'ai reçus, mais il y a un prix dont je me sens particulièrement orgueilleux.
Y era cuando era un joven, ¿no?, de 19 años, y en mi cabeza había un torbellino de ideas, de cosas por hacer.
Et c'était lorsque j'étais un jeune homme de 19 ans et que dans ma tête, les idées bouillonnaient, les envies de choses à faire.
Estaba a punto de terminar mis estudios en la escuela de teatro de la Universidad de Chile.
J'étais sur le point de terminer mes études à l'école de théâtre de l'université chilienne.
Et mi idea era ser un director, quería ser yo, Bertolt Brecht.
Et mon intention, c'était de devenir metteur en scène. Je voulais être Bertolt Brecht.
Al mismo tiempo, quería diseñar un método de alfabetización que fuera muy eficaz.
Et je voudrais mettre au point une méthode d'alphabétisation qui soit la plus efficace possible.
Para terminar de alfabetizar a cientos de miles de adultos que en el sur de Chile no sabían leer.
Pour pouvoir alphabétiser des centaines de milliers d'adultes qui vivaient dans le sud du Chili et qui ne savaient pas lire.
Y al mismo tiempo queríamos desarrollar un arte popular, incorporar más gente a la política.
Et en même temps, on voulait développer un art populaire et incorporer davantage de gens à la politique.
Y un día a ese muchacho de 19 años que era yo, se acercó un dirigente del Partido Socialista y un hombre que estaba en el gobierno.
Et un jour, à ce jeune homme de 19 ans que j'étais, s'est approché un homme, un dirigeant politique, quelqu'un qui était dans le gouvernement.
Y me llamó a una oficina y me dijo, querido compañero, quiero comunicarte algo que es muy importante.
Et il m'a fait convoquer dans un bureau et il m'a dit, cher camarade, j'ai quelque chose à te communiquer de très important.
Et lo que me dijo es, entre un grupo de militantes, se te ha elegido para que tú seas parte de la escolta de seguridad del presidente Allende.
Et ce qu'il m'a dit, c'est que au sein d'un groupe de militants, j'avais été choisi pour être membre de l'escorte du nouveau président Salvador Allende.
Y pasé a integrar un grupo que se conoció por las siglas GAP, Grupo de Amigos Personales.
J'ai fait partie de ce groupe de jeunes gens qui est connu sous les initiales GAP, qui veulent dire groupe d'amis personnels.
Que recibimos de la policía chilena una leve instrucción en el manejo de armas y de cómo rechazar un ataque a la persona del presidente.
La police chilienne nous a un peu instruit dans le maniement des armes et sur la façon de repousser quelque chose qui serait un attentat contre le président chilien.
Y que en un momento determinado tuvimos que abandonar nuestros jeans y nuestra parka y colocarnos un traje con corbata.
Et donc nous avons dû aussi à ce moment-là renoncer à nos jeans et à nos parkas et endosser un uniforme.
Pero no éramos simplemente una escolta o una guardia, éramos un grupo de hombres y mujeres muy jóvenes.
Mais nous étions autre chose ou quelque chose de plus qu'une simple escorte, nous étions un groupe de jeunes femmes et jeunes gens.
Y cada tarde, muy tarde en la noche.
Et chaque soirée, fort tard dans la nuit.
Ya fuera en la residencia oficial del presidente Allende o en la casa de reposo del presidente.
Aussi bien dans la résidence officielle du président que dans sa maison particulière.
Se reunía él con todos los que ese día teníamos que estar con él como escoltas.
On était réunis tous ceux qui étions membres de cette escorte.
Y nos preguntaba nuestra opinión sobre asuntos de Estado, porque le interesaba nuestra opinión de hombres y mujeres jóvenes.
Et il nous demandait notre avis sur les choses de l'État, parce que cet avis était celui de jeunes gens qui l'intéressaient.
Nosotros, naturalmente, con un gran respeto, nos dirigíamos a él como doctor o compañero presidente.
Évidemment, nous, avec le plus grand des respects, nous lui parlions en l'appelant docteur ou camarade président.
Pero él nos exigía que le habláramos sin la menor inhibición, con absoluta sinceridad.
Et lui nous demandait de lui parler sans aucune inhibition et avec la plus grande des sincérités.
Y a veces nos sorprendía decir, mañana se vota una ley de educación. Compañeritos, o sea, quiero saber vuestra opinión.
Et il nous disait des choses comme, par exemple, demain, on va voter une loi importante sur l'éducation et mes chers compagnons, j'aimerais bien connaître votre opinion.
Et nosotros teníamos la satisfaction y el honor de poder discutir con él.
Et nous avions la satisfaction et l'honneur de pouvoir parler avec lui.
Por eso no fue extraño que todos los militantes, los miembros del GAP, que el 11 de septiembre del 73 estaban junto a él.
Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas étrange de savoir que tous les membres du GAP qui le 11 septembre 73 l'entouraient
estuvieran decididos a morir junto a él.
Étaient décidés à mourir pour lui.
Y para ellos fue muy difícil aceptar la orden de Allende de no dejarse matar y salir del Palacio de la Moneda.
Et pour eux tous, il a été très difficile d'accepter l'ordre de Salvador Allende qui a ordonné de ne pas se laisser tuer et au contraire de sortir du Palais de la Moneda.
Todos los que salieron fueron apresados vivos.
Tous ceux qui sont sortis ont été faits prisonniers vivants.
26 salieron vivos de la Moneda.
26 personnes sont sorties vivantes du Palais de la Moneda.
22 fueron asesinados y hechos desaparecer.
22 furent assassinés ou ont disparu.
Y hace muy poco en Chile hablaba con uno de mis compañeros del GAP.
Et il y a pas très longtemps au Chili, je parlais avec l'un de mes anciens compagnons du GAP.
Una gran realizadora francesa, Sylvie Deleuil, hizo un film para la cadena Arte de televisión.
Une grande réalisatrice française de télévision, Sylvie Deleuil, a fait un film pour la chaîne Arte.
Y yo la llevé a conocer a mis compañeros sobrevivientes del GAP.
Et je lui ai présenté, je lui ai fait connaître mes compagnons qui étaient survivants du GAP.
Y fuimos juntos a la tumba de Salvador Allende.
Et nous sommes allés ensemble sur la tombe de Salvador Allende.
Y fuimos juntos a una sepultura que está al lado y en donde están los restos de los otros miembros de la escolta que han sido encontrados.
Et nous sommes allés aussi sur la tombe, une tombe qui est à côté où se trouvent les restes des membres du GAP qui ont été assassinés, qu'on a pu retrouver.
Pero sin embargo cumplimos con ir frente a la tumba de Allende y simbólicamente decirle, compañero, la escolta está dispuesta, ordena.
Mais symboliquement, nous sommes allés sur cette tombe, sur la tombe d'Allende, de façon à pouvoir lui dire, camarade, président, l'escorte est à ton service, tu n'as qu'à commander.
Et une expérience ainsi marque pour toute la vie.
Et une expérience de ce type-là, ça vous marque pour toute la vie.
Y hace que uno asocie la política y el arte a la decencia.
Et ça, je l'associe à quelque chose dans l'art et la politique qui est la décence.
Y yo me considero realmente un heredero de esa decencia enorme que conocí.
Et je me considère comme un héritier de cette immense décence que j'ai connue à l'époque.
Cuando alguien me pide definir a mi generación, yo digo con orgullo, la mía es una generación decente.
Lorsqu'on me demande de définir ma génération, je réponds avec orgueil, ma génération est une génération décente.
Que hizo lo que tenía que hacer y en el momento en que había que hacer las cosas.
Qui a fait ce qu'il fallait faire et au moment où il fallait le faire.
Y eso es así en política, en arte, en ecología, en todo.
Et c'est comme ça dans le domaine de la politique, de l'art, de l'écologie et partout.
En 1996, presque 20 ans après avoir été contraint de quitter le Chili, après avoir été libéré grâce à Amnesty International, vous êtes retourné au Chili plusieurs reprises, mais en 1996, vous y avez fait un voyage avec un ami photographe, Daniel Morzinski. Vous en avez tiré un livre 15 ans plus tard. Il a fallu du temps pour faire ce livre. Et je vous propose d'écouter l'un des textes qui compose ce livre, qu'Anne de Boissy va lire, Le Shérif.
Nous étions près d'El Bosón, une ville pittoresque à la frontière entre les provinces du Río Negro et du Chubut. Le vent courbait les gigantesques peupliers entourant le cimetière et l'immense coupole formée par leur feuillage protégeait la paix de ceux qui reposaient là. Des gens arrivés un jour dans le sud du monde, pleins de rêves, d'ambitions, d'espoirs, de projets, d'amour, de haine. Ces matériaux élémentaires qui façonnent notre bref passage sur Terre. Ils étaient arrivés de partout avec leurs coutumes et leurs langues et avaient fini là, dans un cimetière, oubliés, balayés par le vent, unis dans la paix souterraine et le langage universel de la mort. Cigarette au bec, un homme disposait des fleurs sèches sur une sépulture. On nous a dit que Martin Sheffields était enterré ici. « Le shérif, cette sale bête, est quelque part par là », a-t-il répondu. J'ai insisté, « Vous savez où se trouve sa tombe ?»« Oui, mais il faut s'en approcher avec précaution, car ce salaud a été enterré avec ses deux coltes dans les mains, et s'il est de mauvaise humeur, il vous reçoit à coups de revolver », a-t-il répondu en se mettant en marche. Nous l'avons suivi en passant au milieu des tombes de Polonais, Italiens, Galiciens, Juifs, Russes, Gallois, et aussi autochtones. Martin Sheffields arriva en Patagonie au début du XXe siècle. Il baragouinait un Espagnol plein de tournures mexicano-texanes et l'inventaire de son patrimoine était mince. Deux superbes colts collés aux cuisses, une bonne selle texane sur son cheval blanc et une étoile de shérif accrochée au revers de sa veste. « Il est enterré là, et bien profond, j'espère », a dit l'homme en nous indiquant une sépulture sans inscription. Sur la tombe, il y avait une marguerite en plastique aux pétales calcinés. Pas grand-chose pour fleurir la sépulture de l'un des grands mythes de la Patagonie. Il est probablement mort en 1939, mais personne ne le sait avec exactitude. En Patagonie, l'histoire n'est qu'un prétexte pour enjoliver la réalité et prolonger les soirées au coin du feu en sirotant son maté. Pour certains, il a été tué.
Pour d'autres, il est mort d'un infarctus sur son cheval blanc en cherchant de l'or dans les centaines de rivières qui prennent leur source dans les lacs andins. Quoi qu'il en soit, quand les muletiers l'ont trouvé, il était mort depuis plusieurs semaines. Les condors et les faucons se sont offerts un sacré festin avec cet homme d'1m85 et de plus de 100 kilos. Mais ils n'ont pas réussi à lui arracher des mains ses deux revolvers. C'est comme ça qu'on l'a identifié. Ces muletiers enterrèrent ses restes sous un tas de pierres, près du ruisseau Las Minas, jusqu'à ce qu'en 1959, l'un des 12 enfants, né de son union avec Maria Ancapichun, décide de faire transférer ses ossements au cimetière del Bosón. Maria Ancapichun était, dit-on, aussi grande et forte que lui. Sinon, comment expliquer la passivité de ceux qui, en la voyant apparaître dans les pulperias, abandonnaient la table de jeu et préféraient voir les cartes voler en l'air plutôt que de recevoir une de ces mandales qu'elle balançait à son homme au point de le laisser groggy. Il la voyait le hisser sur son cheval en grognant « Que personne ne touche à ses cartes. Le temps de me faire un enfant de plus et il revient. » On raconte que le squelette ne résista pas au voyage en Chata, une grosse camionnette sur les chemins accidentés de la Patagonie. Il tomba en morceaux, mais les coltes restèrent accrochés aux os des mains. Une marguerite en plastique sur sa tombe et une étoile de shérif dans une des vitrines du musée de San Carlos de Bariloche, voilà tout ce qui reste de Martin Sheffield. Tout ? Non. Il a également laissé une histoire qui amuse, divise et passionne, comme tous les aventuriers et les canailles. Pour certains, il est né à Baltimore. Pour d'autres, il est venu au monde à Tom Green, au Texas. Dans les archives de l'agence de détectives Pinkerton, des documents assurent qu'il a passé sa jeunesse dans l'Utah. C'était un cow-boy de plus, plutôt adroit au tir, et il avait assisté en première ligne à l'extermination de la Horde Sauvage, une mini-armée de pilleurs de banques et de trains, dont faisaient partie entre autres Black Jack Ketchum, Harry Tracy, Paul Haight Logan, Flatnose Curry et Butch Cassidy. Fin 1898, les hommes de la Pinkerton avaient réussi à imposer la loi du plus fort après avoir capturé ou éliminé la plupart des bandits, mais il leur en manquait un, Butch Cassidy. En 1901, la Pinkerton reçut une nouvelle inquiétante. Butch Cassidy a quitté le territoire de l'Union à bord du vapeur Soldier Prince qui naviguait vers Buenos Aires. Il ne voyageait pas tout seul. Il était accompagné d'une institutrice, Hita Place, et d'un homme sans casier judiciaire qui se faisait appeler Sundance Kid. La Pinkerton décida aussitôt de les faire suivre à la trace par un inspecteur et engagea Frank Di Maio, un Italien. À son arrivée à Buenos Aires, il apprit que le trio avait acheté 6000 hectares de terre près de Cholila, en Patagonie. Et alors qu'il s'apprêtait à partir pour le sud du monde, il découvrit les attraits de la capitale argentine, fit la connaissance d'une belle fille d'origine italienne, écouta l'appel de la vie sédentaire, envoya au diable la Pinkerton et ouvrit un magasin de chaussures. En 1901, Martin Sheffield se rapprocha de la Pinkerton. La récompense de $50,000 offerte pour la tête de Butch Cassidy lui sembla l'occasion rêvée de connaître l'Argentine. Il arriva à Buenos Aires le 6 février 1902. À l'hôtel où avaient logé des milliers d'immigrants arrivés entre 1830 et 1860, il se présenta sous le nom de Martin Sheffield, shérif des États-Unis. Dans son espagnol Tex-Mex, très particulier, il demanda sûrement comment diable on se rendait en Patagonie. Près de Cholila, la cabane construite avec des troncs d'arbres par Hita Place, Butch Cassidy et Sundance Kid était toujours debout et sa solidité lui permettra de le rester encore pendant de nombreuses années. Quand mon socio et moi nous y sommes rendus, elle était habitée par une famille portant le nom de Sepúlveda. Un après-midi au ciel tourmenté, nous avons bavardé et partagé du maté avec le maître de maison, Don Aladino Sepúlveda, un petit vieux au regard enfantin, malin comme un renard. Bien sûr qu'il les a trouvés. Il est venu ici et leur a parlé. Je n'étais pas encore née, je viens d'avoir 84 ans, mais mon père me l'a raconté. C'était probablement en 1902. Sheffield est arrivé sur un cheval blanc. Il n'en a jamais eu d'une autre couleur.
On ne saura jamais ce qu'ils se sont dit, mais ils ont sûrement trouvé un accord. Car sur tous les télégrammes expédiés par Sheffields à l'agence Pinkerton, entre 1902 et 1905, on trouve toujours le même argument. L'Argentine est un très grand pays et je suis sur leur piste. En 1905, un Nord-Américain voyageant sous le nom d'Andrew Duffy arriva jusqu'à la cabane de Cholila. En réalité, il s'appelait Harvey Logan, l'un des fondateurs de la Horde Sauvage. Cette même année, Butch Cassidy, Hit a Place, Sundance Kid et le nouvel arrivant attaquèrent la Banque du Sud à Santa Cruz. Pendant ce temps, Sheffields prenait des notes qu'il n'envoya jamais à la Pinkerton. Joe Giglian, un néo-zélandais collectionneur passionné de tout ce qui touche à Butch Cassidy, m'a montré un carnet dont on attribue la propriété à Martin Sheffields. On peut lire « J'aurais pu les tuer quand ils sont sortis avec l'argent des Gallois. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. » En 1907, les jeunes gens et l'institutrice s'en prirent à la Banque de la Nation, à Villa Mercedes. Mais l'affaire prit une mauvaise tournure quand Harvey Logan tua le directeur. Dans le carnet de Sheffields, on trouve « Au début, je n'ai pas reconnu la femme parce qu'elle était habillée en homme. Ce mort va nous attirer des histoires. » On ne connaîtra jamais les termes de l'accord passé entre Butch Cassidy, Sundance Kid, Hit a Place et Martin Sheffields dans la cabane de Cholila, mais une partie du butin provenant des attaques de banque a probablement servi à acheter le silence du shérif. Car en 1907, il fit l'acquisition de 5000 hectares près d'El Maiten dans le Chubut. La négociation a certainement été dure et intéressante. Si Harvey Logan y a aussi participé, ils étaient 4 contre 1. 4 arguments de différents calibres contre les 2 Colt 45 du chasseur de primes. Don Aladino Sepúlveda nous a assuré que, d'après son père, la rencontre de Sheffields avec les bandits avait duré plusieurs jours et plusieurs nuits. « Vous voulez savoir ce que je crois ?» nous a demandé Don Aladino. Sheffields leur a dit qu'il ne voulait pas de mort. Les morts, ça complique les choses. Même l'homme le plus inoffensif du monde, dès qu'il meurt, peut compliquer la vie à plus d'un. Une tombe sans nom et une marguerite en plastique. Il ne reste pas grand-chose du passage du shérif en Patagonie. J'ai demandé à l'homme à la cigarette au bec... « Il existe encore quelqu'un qui l'ait connu ?»« Oui, la dernière fille de ce bandit est toujours en vie. » Le lendemain, nous sommes allés faire connaissance avec la fille de Martin Sheffields. Nous avons fait le voyage dans notre voiture sponsorisée et, en parlant avec les villageois au cours de nos haltes, nous avons peu à peu découvert la relation entre le chemin de fer Patagon et le shérif. En 1933, quand on a commencé à poser les voies de chemin de fer reliant Ñorquinco à El Maiten, ce sont les moutons de Sheffields qui ont nourri les équipes d'ouvriers. Il aimait les amuser en leur montrant sa stupéfiante habileté au tir. Il était capable de couper une cigarette au ras des lèvres d'un jeune homme distrait ou même de roussir les moustaches d'un autre avec une balle de 45. Plutôt remarquable. Quand la pose des voix fut enfin terminée, Martin Sheffields offrit 6 bouvillons et 30 agneaux pour le grand asado destiné à fêter l'événement. Beaucoup de vieux se rappellent encore la générosité du gringo. Et ce mépris de l'argent, ajouté aux nombreux enfants qu'il avait semés à travers tout le territoire austral, finit par le ruiner. C'est pourquoi il cherchait de l'or au moment de sa mort ou de son assassinat. Dans une pulperia, j'ai demandé à un vétéran « Vous savez qui était Martin Sheffields ?»« Bien sûr, il était connu comme le loup blanc. » C'était un solitaire. On le voyait ici ou là, toujours seul. Il galopait sur son cheval blanc, toujours seul. Quelquefois, il s'arrêtait dans les pulperias, jouait, perdait des sommes énormes, chantait avec une fille assise sur les genoux, et puis soudain allait se mettre dans un coin pour continuer à boire. Tout seul. Au fond, c'était un homme abandonné, non pas par ses amis, ses femmes ou ses enfants, mais par lui-même. Tout près d'El Maiten, nous avons quitté la route de gravier pour prendre à l'ouest le chemin de terre poussiéreux conduisant à la maison de Juana Sheffields, dernière fille de l'aventurier farceur.
Au bout de 2 heures, nous avons vu apparaître la cabane construite par le shérif pour sa fille. Elle se dressait dans un endroit d'une beauté saisissante. Au milieu des rouvres, des tecs, des peupliers, des chênes verts, l'air sentait le bois vierge de la Patagonie andine, la bouse d'animaux en pleine santé, les herbes qui vous mettent le cœur en fête. Donia Sheffield avait 86 ans et un air altier. Son visage recouvert de territoires qui avait peut-être abrité toutes les amours et toutes les haines était résolument patagon, car on pouvait y lire le métissage entre une mère mapuche et un père gringo, porteur à son tour du mélange d'on ne sait combien de sang. Elle m'a offert un siège en face d'elle. Pendant que mon socio la prenait en photo, elle a demandé ce qui nous amenait. Votre père. Parlez-nous de votre père. Martin Sheffield. Le shérif Martin Sheffield. Il a construit cette maison et aussi beaucoup d'autres. C'était un homme. Voilà pourquoi il était aimé et détesté. Parce que c'était un homme. Ça n'a jamais été facile d'être un homme. Un homme porté sur les mauvaises blagues, des bêtises. Il avait un caractère gai, mais n'a jamais fait de mal à personne. Quelquefois, c'est vrai, quand il avait bu, il aimait faire des paris. Un jour, il a mal visé et a arraché le nom d'un gaucho, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Oui. On parle du nez, mais aussi du reste de la tête. Que diable, c'était comme ça à l'époque. La vie en Patagonie n'était pas facile et ne l'a jamais été. Et puis, on vit et on meurt partout. Lui est mort tout seul. C'est comme ça que doivent mourir les hommes. Nous sommes allés sur sa tombe. Elle est abandonnée. C'est une erreur d'avoir fait transporter ses restes au cimetière. On aurait dû les laisser près du ruisseau Las Minas, là où on l'a trouvé. Mais les enfants sont faibles. Il n'y a plus d'hommes comme mon père. Et la meilleure façon de les respecter, c'est de ne pas aller sur leur tombe. Avant notre départ, Doña Juana Sheffield nous a donné du pain tout juste sorti du four et des œufs durs pour le voyage. Ses gestes pleins de douceur pour envelopper ses victuailles dans un linge contredisaient la dureté de ses paroles et de son visage. Nous avons pris le chemin du retour sous un ciel tourmenté, annonciateur d'orage, mais ça nous était égal. Nous savions que la route réserve toujours des surprises. Au bout d'une demi-heure de marche, nous avons vu tomber l'averse sur une large vallée. Un peu plus loin, nous sommes passés sous un arc-en-ciel imposant et, en arrivant sur la route de Cholila, nous nous sommes arrêtés pour contempler un groupe de cavaliers galopant dans le lointain. L'un d'eux montait un cheval blanc et nous nous sommes demandé si la plaine où il galopait se trouvait bien de ce côté de la vie et non de l'autre, et si l'homme qui montait le cheval blanc ne portait pas, par hasard, une étoile de shérif au revers de sa veste.
On va hélas devoir s'arrêter là. Vous l'avez entendu avec ce texte en particulier. On a parlé des histoires, on a parlé de l'histoire avec un grand H. On a sans doute pas assez parlé de géographie et en particulier du Sud qui est si important pour la littérature de Luis Sepúlveda et pour l'homme Luis Sepúlveda. Ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup Luis Sepúlveda.
Merci.
Merci. Merci à Georges Tiras pour la traduction des propos de Georges Sepúlveda. Merci Anne de Boissy pour ces deux lectures. Et je voudrais aussi remercier l'équipe de Radio France, Franck Lilin pour la réalisation et à la technique Fabien Gosset, Jean-Marie Porcher et Pascal Morel. Merci à tous, bonne journée.
Thank you.